comme écrivain. Vous êtes écrivain.
Oh, ben écoutez, il va bien falloir que je m'y fasse moi-même. Donc, j'assume tellement ce texte que oui, j'assume aussi, voilà, ce nouveau statut d'écrivain.
Alors, vous n'avez jamais manqué de moyens d'expression hein, jusqu'à présent, puisque vous êtes exprimé à la radio et vous le faites encore régulièrement, au théâtre, la presse écrite. Pourquoi un roman? Pourquoi vous vous isolez à écrire?
Parce que j'avais vraiment envie d'expérimenter ce niveau de langage-là, mais j'avais quand même publié mon premier roman à 57 ans, ce n'est pas jeune. J'avais vraiment un gros complexe d'infériorité par rapport à ce que j'appelle le périmètre sacralisé de la littérature. Je ne me trouvais pas légitime et je ne m'autorisais pas à y aller jusqu'au jour.
Vous êtes auto-censuré, quoi.
Ah, mais je me suis quand même carrément cadenassé. Jusqu'au jour où, ben voilà, miracle, j'ai baissé les bras devant la peur. J'avais vraiment peur de passer pour un imposteur. Voilà.
Ah oui.
Ouais.
Alors l'histoire, c'est peut-être ça qui fait que vous passez le Rubicon. Vous avez une histoire à raconter, vous avez quelque chose à raconter qui est dans vos tripes, qui est en vous. C'est une histoire qui est assez simple, c'est celle d'un fils d'immigré italien qui a grandi dans le centre, chez les mineurs, qui a perdu sa maman très jeune, qui se retrouve, alors qu'il vient d'un milieu très populaire, patron de presse. Oui. Et puis, un jour, à 60 ans, il se rapproche de son père qui lui demande d'apprendre à lire. Apprendre à lire, c'est le titre de votre roman. Son père est analphabète puisqu'il vient effectivement d'un milieu populaire. C'est vous que vous racontez dans ce livre?
Le matériau de base est autobiographique et ce matériau précis, c'est vraiment l'histoire de mon père et l'enfance et l'adolescence de mon père, qui a été donc un enfant berger dans la campagne, dans les montagnes sardes, puisqu'on l'a retiré de l'école à 6 ans pour tout simplement garder des troupeaux de moutons dans la montagne en Sardaigne. Et donc il a vécu une sorte de douleur due, silencieuse, une souffrance qu'il a construite et qu'il a transportée avec lui pendant des années. Et je voulais je voulais pas rendre hommage, parce que rendre hommage, il y a une espèce de dimension de déférence, mm-hmm. respect. Je voulais poser un regard sur un homme qu'on n'a jamais vraiment regardé.
Alors ça, c'est votre histoire, mais moi, en tant que lecteur, j'ai été touché par cette histoire. Le rapport au père, les non-dits, la difficulté parfois de dire les choses. Voilà, d'une histoire personnelle qui fait référence à votre vécu, qu'est-ce que ça vous fait que le public se l'approprie? Maintenant que vous êtes dans le mouvement, dans les librairies, vous allez rencontrer les gens, vous vous rendez compte que ça passe simplement votre cercle et votre cadre personnel?
Mais c'est la magie, on va pas dire la magie, on va dire c'est la force d'évocation de la fiction et de la littérature, que de pouvoir quitter le petit nombril de l'auteur. Parce que quand j'ai écrit le livre et quand l'éditeur Charles Danzig à Paris chez Grasset l'a accepté, je me suis dit ok, très bien, mais on n'est jamais que deux. On n'est jamais que deux à se dire que cette histoire peut être intéressante. Et donc jusqu'à la parution, je me suis dit c'est quand même pointu. Je veux dire, cette histoire de berger, de père analphabète, bon, il y a une question tabou, mais elle n'est pas vraiment développée au niveau sociétal dans le livre. Et en fait, ce dont je m'aperçois maintenant, et c'est vraiment la grande satisfaction de l'auteur que je suis, c'est de voir que le livre fait complètement écho chez plein de gens qui n'ont absolument rien à voir avec la Sardaigne, avec la société pastorale sarde, avec les moutons, avec l'analphabétisme. Ça fait vraiment écho et il y a plein de gens qui reviennent vers moi en me disant « Je me suis reconnu dans ça, je connais ceci, j'ai vécu cela, ce père je le connais, ce fils c'est à... » Et donc voilà, il y a vraiment énormément d'échos en cercle concentrique qui reviennent vers moi et qui me font dire que
Et vous, maintenant qui êtes dans le cœur du système littéraire, entre guillemets, c'est une industrie ou bien il y a de l'authenticité dans la façon dont on vend votre livre, dans la façon dont vous le racontez, dans la façon dont vous l'avez conçu?
Oui, non, mais... C'est très très précieux, c'est très... Il y a évidemment une dimension commerciale, mais Grasset, qui est une maison vraiment très, très prestigieuse, avec un service de promotion et de presse vraiment très, très à la pointe, défendent vraiment le texte comme si c'était le leur. Donc franchement, c'est très, très agréable de voir qu'un éditeur mise sur votre texte et le porte.
Alors, vous avez beaucoup donné de vous-même dans ce livre. Et toujours la question à 1000 euros qu'on pose, c'est le deuxième. C'est est-ce que vous avez des choses encore à raconter? Est-ce que vous avez l'envie de raconter d'autres choses? Est-ce qu'une fois qu'on a fait un roman, on peut en faire un deuxième?
Mais on dit toujours que le premier roman, il vaut mieux l'écrire parce qu'on parle de soi et puis le ranger dans un tiroir et puis passer au deuxième. Bon, moi, le premier, je l'ai publié, c'est celui-là. Mais oui, évidemment, j'ai envie de continuer à écrire des choses, bien sûr.
Alors moi, je connais pas grand-chose en littérature, j'aime lire, et vous m'avez peut-être donné envie d'apprendre à lire plus. Sébastien Ministru, j'en ai parlé à mes collègues Michel Dufresne, Nicole Debarre, tous m'ont dit que vous aviez une écriture juste, et je vous invite à peut-être la découvrir, cette écriture juste. On vous retrouvera à la Foire du Livre de Bruxelles.
Ouais, à partir de ce soir et demain, vendredi, voilà. Je passe ma vie à la Foire du Livre.
Apprendre à lire à Bruxelles, et toute la première sera à la Foire du Livre, bien sûr, comme chaque année avec de nombreuses émissions en direct.